Lucille et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Benabar.
Benabar, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour commencer d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Creuse. On va passer toute cette émission ensemble pour mieux vous connaître, pour ceux qui vous connaissent déjà, pour vous découvrir, pour d'autres. Avant de commencer et à retracer un petit peu votre parcours, j'ai envie de dire que certains auditeurs qui nous écoutent, les fidèles, vont se dire « Moi, Benabar, je le suis depuis le début, je connais toutes ces chansons. » Est-ce qu'on connaît vraiment Bruno quand on connaît par cœur les chansons de Benabar ?
Oh bah pas tout à fait, même si c'est quand même assez lié. C'est vrai que je parle plutôt de ma vie ou un peu élargie, j'espère, et de celle de mes proches. Mais il y a beaucoup de moi dans les chansons, même si j'essaye de pas trop être trop nombriliste quand même. Mais je suis bien conscient de l'être quand même un petit peu.
Ouais. Et on parlera de l'évolution. Il y a peut-être de plus en plus de Bruno dans les chansons de Benabar. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Avant de parler de musique, on retrace un petit peu les choses. Vous êtes né dans l'Essonne, juste à côté.
Juste à côté, ouais. Dans le 94 à Thiers. Donc, j'ai vécu par contre
élevé dans l'Essonne
toute mon enfance dans l'Essonne.
Avec une maman libraire, un papa régisseur dans le cinéma. Le cinéma, c'est clairement ce dans quoi vous avez baigné tout petit. C'était finalement votre première voie. Il y avait une fascination pour cet univers du cinéma en étant enfant.
Oui, c'est vrai, une fascination et puis aussi une forme d'atavisme. Quoi, mon père était dedans, mon grand frère travaille encore dans le cinéma, donc un peu naturellement en fait. J'imagine que si mon père avait été boulanger, j'aurais sûrement fait des stages dans la boulangerie familiale. Donc ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et puis après j'ai poursuivi dans cette voie-là pendant une bonne dizaine d'années.
Avec à la clé des courts-métrages, vous avez occupé plusieurs postes, mais un premier court-métrage à 20 ans, ce qui n'est pas forcément très courant. José Jeannette, qui fait partie des trois courts-métrages que vous avez réalisés, qui a été primé, on le trouve d'ailleurs sur le DVD live, l'unique DVD qui est pour l'instant sorti. Ça, c'était une volonté aussi de dire, voilà, c'est une autre facette de Benabar que j'ai envie de présenter au public.
Pas vraiment, parce que j'ai pas cette démarche-là, c'est-à-dire d'essayer de vouloir à tout prix montrer ce que je sais faire et bomber le torse et montrer les muscles. En plus, c'est pas au niveau pour ça, mais c'était plus rajouter un petit bonus, quoi. C'est-à-dire rajouter un petit truc en plus pour idéalement amuser les gens, quoi. Mais il y avait pas d'autres ambitions derrière ça.
Alors à l'issue, cela dit, du troisième court-métrage, ça s'est arrêté assez brutalement. Pourquoi, une mauvaise expérience?
Pas forcément une mauvaise expérience, mais plutôt je me suis aperçu que c'était pas le domaine dans lequel je m'épanouissais le mieux. Et puis comme parallèlement je commençais à faire des concerts dans des bars, des trucs comme ça, où j'y prenais beaucoup de pas que du plaisir, d'ailleurs beaucoup d'intérêt à travailler les chansons, à essayer de mettre en place les concerts, essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose chaque soir. J'ai bifurqué assez naturellement, mais sans douleur, quoi, sans regret.
Et avant de le quitter, il y avait aussi une envie de signer, d'écrire un long métrage. C'était un projet qui est resté un peu dans les tiroirs. Il y avait un projet précis, une envie précise.
Oui, j'ai travaillé sur pas mal de longs métrages personnels et puis avec des camarades scénaristes. C'était un peu le trajet, le passage obligé du jeune scénariste. Quoi. J'ai beaucoup travaillé pour la télé et puis parallèlement, je commençais à essayer de faire un scénario pour un long métrage de cinéma qui n'a jamais abouti, mais pour des bonnes raisons, c'est parce que le scénario n'était pas au niveau.
Alors Benabar scénariste, ce serait quel univers, on va dire ?
Je sais pas, franchement, parce que justement, j'avais pas les compétences pour faire un scénariste digne de ce nom. Je pense que j'ai trouvé plus ma façon de m'exprimer dans les chansons, du moins pour l'instant. C'est peut-être que le format plus court me permet à moi de m'en sortir mieux, même sans prétendre que mes chansons sont géniales. Mais je pense être un peu plus à l'aise que sur un film d'une heure et demie. Ouais. Et
certains prétendront pour vous que les chansons sont géniales. Vous l'avez dit, vous avez travaillé pour la télé aussi. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus méconnu. Vous avez signé des scénarios notamment pour la série H. La famille Guérin également sur Canal+. C'est quoi ? C'est un travail très différent ou c'est formateur aussi pour l'écriture de chansons ?
C'est très formateur dans le sens où quand on essaye d'écrire, quel que soit le domaine, la chanson, les romans, enfin les articles pour les journalistes, je crois que tout ce qui tient à l'écriture est formateur et une expérience bonne à prendre. Donc c'était très intéressant de faire de la vanne toute la journée dans un contexte un peu industriel, parce que c'était une sitcom, donc il fallait vraiment fournir, retravailler des choses. Ça apprend l'humilité, le fait de pouvoir jeter à la poubelle un épisode entier et le reprendre. Je pense que ça permet de gagner du temps par la suite, quoi.
Mais c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec ensuite le travail d'un album, ce qui fait qu'on est obligé d'abandonner et de choisir un peu sa voix.
Non, j'ai réussi à faire ça en parallèle au début, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les choses fonctionnent, quand on fait beaucoup de concerts, etc., très vite, on a moins le temps. Mais mes deux premiers albums, je les ai écrits en faisant des concerts tout en travaillant à la télé. Donc j'ai réussi pendant un moment à mélanger les deux, mais c'est vrai que quand les choses grossissent un petit peu, ça devient trop dur pour des bêtes raisons d'emploi du temps en fait.
Et ça veut dire qu'on part à projet tout à l'heure, mais la télévision, le cinéma, c'est des choses qui sont pas définitivement, la page n'est pas définitivement tournée, c'est une voie sur laquelle vous pouvez vous rediriger, peut-être sur une pause entre deux albums.
Ah bah j'espère, enfin je m'interdis rien et puis j'espère faire des choses, ouais, mais en même temps moi j'ai pas non plus l'envie fondamentale de faire autre chose, tu vois, c'est pas un rêve d'être acteur, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, l'espèce de truc, un passage un peu obligé dès que t'es chanteur et que les choses fonctionnent pas trop mal, pourquoi pas, tu vois, je m'interdis rien, mais tu vois c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir du tout, donc je prends les choses plutôt très exceptionnellement, parce que c'est pas mon genre, mais avec philosophie dans ce domaine-là.
Raffinement de gastronome, c'est la chasse au canard dans le mar de Bourgogne.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Benabar.
Alors Benabar, votre premier contact avec la musique, c'était par la trompette, c'était à l'âge de 8 ans. Ça, c'était une volonté aussi parce qu'il y avait, au-delà du cinéma qui vous faisait rêver, il y avait aussi le cirque pour lequel vous aviez une grande fascination. Et la trompette, c'était lié à l'univers du clown, à l'univers du cirque.
Oui, quand j'étais petit, ça me préoccupait beaucoup. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, aussi loin que remontent mes souvenirs, voulu jouer de la trompette. Quoi. Alors après, ça doit être des obsessions de gamin. Moi, c'était vraiment la trompette. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont encouragé là-dedans. Donc très vite, j'ai commencé à faire de la musique, à pouvoir jouer du cornet à piston d'abord. Et voilà, rentrer dans la musique par ce biais-là. Je précise que je suis mauvais trompettiste, mais par contre, ça m'a permis d'ouvrir un peu et de désacraliser la musique, c'est-à-dire de savoir un petit peu, quoi, tu vois.
Alors, puisqu'on parle de trompette, de clown, ça c'est une info que les fans qui suivent Benabar depuis longtemps ont déjà, mais c'est une question que les autres peuvent se poser sur ce pseudonyme de Benabar, c'est lié à cet univers-là aussi.
Oui, c'est Barnabé à la base. C'est-à-dire quand on commençait à jouer avec un camarade guitariste dans les bistrots, ça m'amusait qu'on ait un peu des noms de clowns, hein, comme aurait pu avoir des noms de personnages dans un dessin animé pour gosses, par exemple. Donc moi j'avais choisi Barnabé, et comme lui parlait verlan, c'est devenu Benabar, et c'est resté comme les surnoms idiots qui restent des années et qu'on peut pas se détacher. Et maintenant je commence à m'y faire.
Oui, maintenant les choses sont bien intégrées. Alors on passe de 8 ans à 25, on fait un bond dans le temps. Là, c'est le premier moment où vous commencez à toucher un petit peu l'écriture de texte. À la base, c'était pour dépanner un pote un peu en panne d'inspiration.
Oui, le copain en question d'ailleurs, qui était lui musicien, qui était venu s'installer chez moi de passage à Paris et qui cherchait des textes. Et puis moi, ça m'a toujours préoccupé d'écrire. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu avant les scénarios, etc., mais l'envie de raconter des histoires. Donc, naturellement, je lui ai proposé quelques textes, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à composer les musiques, et puis à chanter avec lui, et puis voilà, les choses se sont faites comme ça, de façon un peu empirique.
Mais le micro, en revanche, il n'y avait pas du tout de volonté au départ, quand vous avez commencé à écrire. Chanter, c'était loin de votre idée.
Ah oui, pas du tout, sincèrement, c'est-à-dire que j'avais même pas de velléité cachée, inassumée de chanteur. Non, c'était vraiment écrire, je me serais bien vu scénariste ou auteur de chansons. J'étais plutôt parti pour ça, c'était un peu ma vocation.
Ouais. Et c'est aussi ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir commencé par l'écriture avant de passer en tant que chanteur, plutôt qu'avoir fait l'inverse. C'est plus formateur, on vous dit très méticuleux dans le travail, très très précis. C'est pour vous, c'est ce qui fait aussi la force de vos textes aujourd'hui ?
Peut-être. Alors, j'oserais pas parler de la force de mes textes parce que c'est quand même discutable. Mais en tout cas, je pense que ça m'a aidé dans ma petite carrière, c'est-à-dire justement de pas avoir de fantasmes autour du métier de chanteur. C'est comme on voit beaucoup les mômes qu'on voit à la télé dans les trucs et tout ça que j'encourage tous. D'ailleurs, moi, je me sens très solidaire avec eux. Mais moi, c'est vrai que je m'en foutais complètement d'être chanteur. Donc d'aller sur scène, c'était quelque chose que je faisais avec plaisir, mais sans me dire faut à tout prix que je signe dans une maison de disques. J'ai toujours considéré la musique comme étant un truc au jour le jour, au concert le concert, quoi, et à la chanson la chanson. Donc peut-être ça m'a permis de prendre les choses avec un peu plus de recul et de tranquillité, quoi, de me concentrer sur ce que j'avais à faire et pas rêver à des trucs plus gros que moi, quoi.
Et pas des envies de grandeur tout de suite. Oui. Ça veut dire que les premiers pas sur scène, donc c'était avec Patchol, votre comparse. Comment ça s'est passé? Quel souvenir on garde de ces premiers pas sur scène derrière le micro?
Ah bah, je me souviens, ça avait été un vrai cauchemar pour moi parce que on jouait à Montreuil, on faisait 3-4 chansons, je crois. Et c'était la première fois donc où j'allais sur scène, c'était dans un petit club. Et Patchol est arrivé une heure en retard et super bourré. Et donc il connaissait pas du tout les paroles, il était incapable de jouer de la gratte et tout ça. Donc pour mon premier concert, il a fallu que je chante ces paroles à lui, que j'essaye de rattraper au piano. Et déjà aujourd'hui, après 10 ans de musique, enfin 12 ans maintenant, je suis très mauvais au piano, mais je te laisse imaginer il y a 12 ans. Donc ça a été très très dur. Mes premiers pas sur scène ont été vraiment très aléatoires, un peu cascade.
Ça reste des bons souvenirs évidemment par la suite.
Oui, ça reste des bons souvenirs, et ça, pour le coup, je crois que c'est formateur, justement, cette école-là. Enfin, même s'il y en a plein d'autres, hein, je fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut à tout prix commencer dans les petits clubs et galérer, etc. On peut commencer par la télé et faire une belle carrière, hein. Mais c'est vrai que ça apprend des choses aussi de jouer dans des conditions difficiles, dans des bistrots où les gens, a priori, s'en foutent, ils ont envie de boire un verre et ils t'écoutent pas forcément. Ça apprend certaines choses, ça apprend pas tout, mais ça m'apprend certaines, ouais.
Alors on passe en 96, là c'est la tournée parisienne et puis l'arrivée des renforts, ceux que vous appellerez vos associés par la suite et qui vont vous suivre.
Oui, mes deux associés, Denis et Pépère. Bah, Denis qui est toujours avec moi, qui joue de l'accordéon. Et Pépère qui est journaliste, qui a arrêté, mais qui est régulièrement avec nous, qui joue de la basse sur les albums, enfin sur certains titres des albums, qui était à Lyon la semaine dernière. Donc on est resté proches, oui, mes associés sont toujours là.
Ah, parce que certains connaissent Benabar avec les 4 albums de Benabar, mais il y avait donc Benabar et associé avec La Petite, ouais, Monnaie, ce premier bébé, j'ai envie de dire. Un souvenir là aussi de l'accouchement, c'est forcément quelque chose de particulier quand on sort son premier disque.
Oui, c'est vrai que c'est particulier, notamment d'aller en studio, parce que je crois qu'aucun d'entre nous, si peut-être Pépère, mais aucun d'entre nous n'était rentré en studio, donc c'était vraiment le dépucelage intégral de faire un disque, donc ça se ressent dans l'album, ouais, le côté enthousiaste et énergique d'un premier album, et en même temps tous les défauts évidemment de technique, je chante n'importe comment, je me cassais la voix au bout de 2 chansons, ce qui m'arrive encore, mais moins quand même, et donc j'en ai de très bons souvenirs. Ouais.
En parlant de la voix, il y a aussi un grain de voix particulier à Benabar. Alors on dit le grain de voix du fumeur, ça va faire une bonne publicité pour l'univers du tabac. Alors on va peut-être pas insister forcément, mais
en plus moi je crois qu'il faut s'arrêter de fumer, ce qui est prévu dans mon cas, donc je défends pas du tout cette idée là mais non, j'ai toujours eu la voix cassée moi-même jeune. C'est plus tard en fait la voix du fumeur, si tu fumes pendant 40 piges là t'as la voix vraiment déglinguée, mais non, c'est la voix cassée, je sais pas pourquoi.
En revanche, on a des bons souvenirs sur scène, il y a aussi les bons souvenirs des à côté, les tournées, les nuits d'hôtel. Vous disiez que qui n'a pas fait ses nuits d'hôtel un peu en amateur n'a jamais connu la préhistoire. C'est un peu ça aussi, des bons souvenirs qui marquent et qui forgent aussi l'expérience de tournée et d'équipe.
Oui. Ça, ce sont des bons souvenirs de copains, ouais, d'amitié. C'est vrai qu'on se retrouvait à 7 dans la même chambre de Formule 1 parce qu'on n'avait pas de quoi payer un autre hôtel, ou qu'on dormait dans le bar où on avait joué le soir même. J'aurais pas fait ça toute ma vie, mais c'est vrai qu'on l'a fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer à autre chose, ce qui est vraiment un privilège. Donc, j'en garde un super bon souvenir. On était ravis de le faire à l'époque. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, de dormir dans un bistrot, ça me gênerait un peu plus, quoi.
Si t'as besoin de moi, peu importe le problème, pour te tendre la main si les autres portes se referment, je compte sur toi.
Comptez sur moi, c'est un extrait du dernier album de Benabar, reprise des négociations. Je vous rappelle que cet album, vous pourrez le gagner tout à l'heure, hein, uniquement en fin d'émission. Album qui plus est dédicacé de la main de Bruno Nicolini de Benabar. Rien que pour vous, il faudra être parmi les plus rapides. Ce sera donc un tout petit peu avant 19h, encore un peu de patience. Et puis dans quelques instants, nous retournerons en compagnie de Benabar qui nous accompagne tout au long de cette émission pour continuer d'évoquer avec lui sa carrière, ses projets également, et puis nous écouterons pour les fans à nouveau 3 extraits musicaux signés Benabar, donc ne bougez pas.
La preuve, mon scaphandre vaut tellement de fric qu'avec on pourrait soigner la moitié de l'Afrique.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Benabar.
Alors Benabar, on a parlé des débuts avec cette formation qui a pris de l'ampleur progressivement, et puis les choses ont encore grandi, d'autres membres sont venus s'ajouter un petit peu à l'équipe avec la signature dans une grande major de disques, avec un autre album qui a été enregistré à la fin de l'année 2000, c'est le premier album sous le nom unique de Benabar d'ailleurs. L'album a été lancé seulement et sorti un an après avoir été enregistré. Il y a eu encore des difficultés là à être vraiment poussé parce qu'on n'est pas encore connu. C'était le début de la Starac, hein, on en parlait tout à l'heure, mais c'était un peu la même époque. Vous avez eu des difficultés à être soutenu, à être mis en avant?
C'était pas des difficultés, c'est-à-dire que j'avais fait le premier album avec les associés dans une maison de disques, on n'était plus dans cette maison de disques, et moi je voulais pas faire le tour des maisons de disques, donc comme j'avais gagné un peu d'argent à la télé, parce que je travaillais à Canal à cette époque-là, on a monté une petite boîte avec les copains, et puis chaque copain a participé un peu et on a produit le disque nous-mêmes, et puis après on a démarché les maisons de disques avec le disque, et donc c'était pas plus que ça galère, mais c'était aussi faire les choses, moi les choses je voulais vraiment contrôler les choses et pas surtout pas faire le tour des maisons de disques avec mes maquettes, quoi. C'est quelque chose que je me refusais à faire, ça m'emmerdait, en plus comme je faisais des concerts, enfin tu vois, j'en éprouvais pas le besoin, quoi.
Et c'était peut-être plus facile aussi à l'époque parce que la Starac n'avait pas encore commencé. Aujourd'hui, vous pensez que pour les artistes comme vous qui vont démarcher une maison de disques, c'est beaucoup plus difficile d'être entendu et d'être pris sous l'aile d'une grande major?
Aujourd'hui, c'est plus dur, mais c'est pas à cause de la Starac, c'est à cause de l'effondrement du marché du disque. Ouais, c'est-à-dire que c'est sûr que ça va mal dans les maisons de disques, quoi. Donc il y a moins d'argent qui rentre, donc ils signent moins d'artistes en développement, ce qui est je compatis très sincèrement et je souhaite bonne chance à mes jeunes collègues qui commencent à débuter, même si je crois que c'est toujours possible, parce que je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus d'artistes maudits, si t'assures, tu as moyen de faire des concerts, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus dur. En même temps, je crois que ça a toujours été dur. Hein. Voilà, je crois que il faut faire de la musique et puis pas trop se préoccuper de ces trucs-là, même si c'est en effet plus dur à cause de l'industrie du disque qui est un vrai problème. Ouais.
On a l'impression que ça vous a pas forcément concerné cette crise du disque. On va y revenir parce que le succès de vos albums ne s'est pas démenti. Simplement pour rester sur ce premier album Benabar, il est tombé notamment dans une oreille ou dans deux oreilles, celle d'Henri Salvador. Là aussi, c'est une belle rencontre et c'est une mise du pied à l'étrier assez phénoménale, avec notamment 140 dates en première partie d'Henri Salvador, un Olympia.
Ouais, avec Henri, ça a été un vrai coup de pouce pour le coup. Il m'a vraiment aidé. Alors après, c'est toujours pareil, c'est quand tu commences quand les choses vont pas trop mal, il y a plein de gens qui d'un seul coup t'ont découvert, quoi, et t'ont aidé à tes débuts, quoi. Et parfois c'est le cas, c'est pas toujours tout à fait le cas. Et dans le cas d'Henri, c'était vraiment, vraiment la vérité. C'était complètement désintéressé et vraiment pour donner un coup de main et qui m'a été extrêmement utile, ouais, assez inespéré. Ouais.
Alors pour vous, c'est aussi, on bascule dans un autre univers, on passe à un autre niveau, en tous les cas, de se retrouver devant un Olympia plein à craquer, même si les gens sont pas venus là pour
C'était des zéniths, on avait fait vraiment des grosses salles à l'époque, et bah c'est vrai en première partie, quand c'est la première fois, surtout quand t'as l'habitude de faire des bistrots, tu te retrouves en première partie d'un zénith, c'est assez intimidant, mais c'est un vrai coup de pouce, oui, parce que t'es un peu plus en lumière. Et ça m'a beaucoup aidé, oui, j'en suis vraiment conscient.
Alors vous êtes retrouvé comme la nouvelle génération de la chanson française, chanteur à texte avec Sanseverino, Vincent Delerme, toute cette équipe-là. Pour vous, c'était quoi? C'était une vraie pression, une responsabilité après face au public de dire voilà, je peux plus décevoir?
Indépendamment de la nouvelle chanson française, tout ça, parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à ça, parce que ça veut pas dire grand chose, mais moi j'ai toujours eu peur de décevoir, mais encore aujourd'hui les gens qui aiment bien mes chansons, hein, ça fait partie du métier, hein, du boulot, c'est l'inconvénient principal, c'est-à-dire que peut-être des gens ont bien apprécié mes chansons que j'ai déjà faites ou le concert d'hier, mais ça veut pas dire qu'ils vont apprécier le concert de ce soir ou les chansons de la semaine prochaine, donc c'est à moi de justifier ça, quoi. Et voilà, c'est un peu inquiétant, un peu, ça met une pression constante, mais ça fait partie du jeu, donc je m'en accommode, quoi. C'est la moindre des choses, quoi, de se faire un peu chier quand même dans un métier aussi sympa, quoi.
Alors on se retrouve avec quand même 450 000 exemplaires vendus des albums, 500 000 exemplaires. Là, on commence aussi à parler de crise du disque, hein. C'était notamment en 2004, lorsque vous avez reçu la victoire de la musique pour l'album Variété de l'année 2004. Et pourtant, vous vendez 500 000 exemplaires de votre disque. Comment vous vivez vivez ça? Comment vous expliquez que, malgré cette crise-là, vous qui êtes nouvellement arrivé sur la scène française, vous semblez assez épargné finalement?
Bah, je constate, oui, que je suis vraiment un privilégié. Je m'en rends compte. Je suis pas du tout blasé par rapport à ça. Je mesure le bol que j'ai vis-à-vis de ça. Après, comment on l'expliquait, à vrai dire, je l'explique pas. Vraiment, je m'en réjouis. Je sais que ce sont des responsabilités parce que c'est pas acquis. C'est pas parce que des gens aiment, encore une fois, aiment cet album qu'ils aimeront le prochain si on a un. Enfin, ce que je souhaite, a priori. Mais, voilà, je l'explique pas. Moi, j'ai toujours privilégié la scène. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté de tourner depuis que je fais de la musique, quoi. Donc, c'est pas pour ça que les albums marchent, mais je crois quand même qu'au fond, ça crée quand même une certaine réalité avec les gens, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de sincère qui, dans mon cas, est se sent, quoi, puisque évidemment on est sur la route tout le temps, quoi. Donc voilà. Après, il y a du travail, de l'exigence, mais en même temps, je crois qu'à un moment, les gens, bah voilà, ils ont envie d'écouter ces chansons plutôt que d'autres. Vraiment, je l'explique pas, je m'en réjouis et j'ai beaucoup de gratitude, quoi. C'est surtout ça, mais je l'explique pas.
Et en même temps, on parle de la crise du disque avec les téléchargements illégaux, et vous avez été un des rares à vous élever un peu contre ce système de sanctions un peu trop systématiques, taper un peu sur les plus petits qui sont pas forcément les plus responsables. Vous avez surpris, oui, un peu avec cette démarche-là.
Bah, bien sûr, c'est que moi j'ai toujours été évidemment contre le téléchargement illégal, mais pendant un moment, il y a eu toute une polémique sur, je me souviens plus, mais genre 3 ans de tôle ou un truc comme ça pour un étudiant qui allait, alors moi, évidemment, j'ai dit qu'il n'y a pas question qu'un môme qui grave mon disque aille en prison. Enfin bon, ça n'a pas duré, heureusement, mais c'était à ce moment-là. Mais bah, contre le tout répressif en général, quoi, ce qui est devenu encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, et beaucoup trop aujourd'hui, mais un peu une façon systématique de régler le problème, quoi. Mettre les gens en prison, quoi. C'est quelque chose auquel je n'adhère pas, quoi, que ce soit pour la musique ou pour autre chose, quoi. C'est que je pense qu'il y a plein d'autres solutions, et notamment l'éducation, essayer de faire en sorte que les gens puissent vivre un peu plus dignement, quoi. Maintenant, évidemment, je suis contre le téléchargement illégal pour des raisons évidentes d'industrie du disque. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus d'argent qui sort, et bien voilà, quoi.
Donc le message est passé. On va dans un instant, pour finir l'émission, parler de l'actualité, notamment du tout dernier album. Simplement, on n'a pas parlé de votre univers, qui est une vraie signature, hein. Il y a une vraie patte Benabar, clairement. Alors, à la fois au niveau des textes, vous aimez beaucoup les relations humaines, vous parlez beaucoup des relations entre les hommes, les sentiments, puis les petites choses du quotidien, toujours beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Ça, c'est votre marque de fabrique, vraiment, clairement.
J'essaye, c'est gentil, merci, c'est un compliment. C'est vrai que moi, j'aime bien le quotidien. Alors, j'essaye de pas m'enfermer là-dedans aussi, de pas me complaire, moi, dans un systématisme, quoi. Mais c'est vrai que ça continue à m'inspirer, quoi, les choses de tous les jours, en essayant, évidemment, dans chaque chanson, d'élargir un peu et de rendre les choses un peu plus universelles, sans que ce soit toujours efficace, mais j'aime bien partir du quotidien. Je trouve qu'il y a plein de choses, ouais, dans notre vie de tous les jours, quoi, plein de choses assez belles. Le quotidien n'est pas forcément quelque chose de sans intérêt. Je pense pas ça du tout. Ouais. Mais de raconter des histoires et puis des fois essayer d'incarner des personnages que j'ai pu voir, oui. Mais sans prétendre changer leur vie ou être le Robin des Bois de service, quoi. Je sais bien que ça change pas grand chose, mais essayer de dire des choses quand même si je suis conscient de faire du divertissement, et j'espère en faire, je trouve ça très noble, mais je pense qu'on peut aussi essayer de faire du divertissement pas forcément débile, quoi. Enfin, essayer de mettre la barre haute, encore une fois, c'est un objectif, c'est pas toujours atteint, mais essayer de raconter des trucs, mais ce qui est dans une tradition de chansons dites françaises ou de variétés, justement, faire des belles chansons sur lesquelles on peut danser ou siffloter, mais en même temps, pas forcément raconter que des trucs sans intérêt, quoi.
Donc, il y a la patte Benabar sur les textes, mais aussi sur la musique. Il y a une vraie ambiance. Là, vous soignez vraiment, notamment sur les derniers albums, parce que vous avez plus le temps de le faire, avec beaucoup de cuivres. Il y a un coup de cœur sur les cuivres, notamment.
Bah oui, tu le disais tout à l'heure, ça c'est lié à la trompette. Ça, c'est une malédiction qui m'a pas quitté. C'est vraiment une question de goût. Moi, c'est vrai, j'adore les cuivres, donc j'en mets partout. Des fois, je me surveille un peu parce que j'en mets très volontiers partout. Mais pour la musique, je suis pas le seul du tout. C'est autant les textes, je les fais vraiment tout seul, et la musique, je compose les mélodies, mais toute la musique, je suis vraiment aidé, même plus que ça, par les musiciens d'abord, le réalisateur, les arrangeurs. Enfin, je suis pas tout seul à faire la musique, on est nombreux.
Alors, c'est très personnel, mais en tous les cas, sur le dernier album, Reprise des négociations, il y a une chanson qui pour moi symbolise après un petit peu ces deux aspects-là, c'est-à-dire cette tendresse pour le quotidien et cet humour, et à la fois cette ambiance musicale, c'est Les épices du souk du Caire, avec le Tchungaben, qui est un univers musical absolument génial, difficile à reproduire sur scène.
J'espère que non, parce que Moi, de toute façon, j'ai jamais eu trop le souci de reproduire à l'identique l'album. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Donc, on essaye d'évoluer, de changer un peu les versions. Donc, j'espère qu'on retombe sur nos pattes. Mais c'est vrai que la scène, ça sera jamais aussi léché, précis que sur un disque. On essaye de mettre plutôt l'accent sur l'énergie. J'espère qu'on s'en tire pas trop mal. Mais en même temps, moi, ça m'emmerde de reproduire à l'identique l'album. Tu vois, je trouve que ça a pas d'intérêt, quoi. Donc, on essaye de retravailler les arrangements, puis de aussi nous, de pas rentrer dans une routine, donc de changer les choses régulièrement. Hein.
Y a des détails qui trompent pas, je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Benabar.
Alors Benabar, on termine ce rendez-vous avec l'actualité et les projets. L'actualité, c'est donc le dernier album Reprise des négociations. Il est sorti il y a un an et il était pourtant encore la semaine dernière numéro un des ventes parce que le prix a baissé, mais ça ne pourrait ne pas engendrer de ventes supplémentaires et pourtant c'est le cas. Vous êtes devant toutes les nouveautés récemment sorties, les Yannick Noah et tous les autres. Si je dis que c'est un album un peu plus personnel, c'est votre sentiment aussi, il y a un peu plus de jeu. On parle de l'enfance, on revient avec des berceuses pour le jeune papa. C'est, vous avez le sentiment de vous être plus investi, de vous être plus livré dans cet album-là?
Difficile à dire d'avoir, parce qu'en plus moi j'essaye d'éviter d'avoir un regard trop précis sur mon propre boulot, tu vois, de passer aux autres chansons et puis pas réécouter mes chansons, me dire mais qu'est-ce que je voulais dire par là. Donc j'essaie de pas trop me préoccuper de ça, mais on me l'a dit, oui, en tout cas c'est vrai que ça se voit plus, oui. Le jeu est plus présent, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Et je le constate, ouais.
Donc on retrouve toujours cette même patte Benabar, mais on peut se dire, c'est une question que certains peuvent se poser, vous êtes maintenant bien installé, reconnu, il y a un public qui s'élargit et qui vous suit, vous êtes dans une grande major, est-ce qu'on a toujours la même liberté de création? Est-ce qu'on peut toujours oser autant qu'on en a envie ou on est obligé quand même de se fondre un petit peu plus dans un moule qu'on ne l'aurait fait quand on est seul à tourner dans des petits bars comme vous le faisiez au début?
Oh non, sincèrement non, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Enfin, c'est peut-être une question de profil, mais je vois pas beaucoup de gens qui non plus sont trop soumis à leur maison de disques. C'est-à-dire que les maisons de disques sont souvent présentées un peu comme le grand Satan, tu vois. C'est quand même des mecs dans des bureaux qui écoutent des disques et qui boivent du café et qui fument des clopes, quoi. Donc tu vois, c'est pas forcément des armées de fous furieux du marketing enfermés dans des tours d'ivoire à Manhattan, quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc, moi j'ai aucun problème à ce niveau-là. Je fais exactement ce que je veux. Après, par contre, le problème reste entier. En effet, c'est à chacun d'entre nous d'essayer de conserver un peu de fraîcheur, d'avancer sans se trahir soi-même. Et si j'échoue, ça sera uniquement de ma faute, pas de celle de la maison de 10. Ouais.
Alors pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a cette tournée depuis des mois. Elle s'achève bientôt, puisque là, vous êtes ce soir à Limoges. Demain, Annecy. Mercredi prochain, à Montluçon. Et puis le lendemain, la dernière date, pas des moindres, c'est Paris-Bercy, complet d'ores et déjà, évidemment. La scène, c'est vraiment pour vous qui ne vouliez pas chanter au départ, c'est un terrain de jeu formidable. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus clairement vous passer de la scène.
Ah oui, c'est vrai, moi j'envisage pas ce boulot sans la scène, même si c'est possible, certains le font d'ailleurs. Ça apporte tellement de choses, c'est pas que du plaisir, parce que des fois aussi c'est très frustrant, qu'on n'est pas content de soi, mais c'est tellement généreux, c'est tellement riche la scène, et puis le fait de tourner... et puis le fait aussi le côté potage, être avec 20 copains sur la route, c'est quelque chose que j'apprécie, moi. C'est-à-dire que j'ai assez le profil pour ça, quoi. J'aime bien les soirées débiles avec les copains, quoi. Ça m'a toujours plu, quoi. Donc c'est vrai que la tournée permet ça. Donc moi j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Puis au-delà de ça, artistiquement entre guillemets, c'est aussi la meilleure façon pour apporter ces chansons aux gens, parce que c'est quand même ça le but du jeu, quoi, de chanter des chansons pour les gens. Donc là, c'est toujours un peu abstrait sur les disques, même s'il y a des chiffres. Alors c'est super, il y a 500, 600 000 personnes qui ont acheté ton album, c'est génial, mais c'est quelque chose d'un peu abstrait, tu vois, ça veut pas dire grand-chose en fait. Et sur scène, là, tu mesures les gens, tu vois la réaction des gens, idéalement il se passe quelque chose avec le public, donc c'est vraiment très généreux, ouais. Moi j'aurais du mal à m'en passer maintenant.
Alors avec un public aussi qui partage, c'est une vraie osmose dans les concerts. Il y a un échange entre vous et le public, beaucoup d'humour. C'est vrai qu'on pourrait se penser qu'un artiste de chanson à texte, comme on dit, ça va être un peu plan-plan. Vous, c'est pas le cas. Il y a une énergie débordante, une bonne humeur, une convivialité et vraiment cette communion avec le public.
Bah, la barre est haute, dis donc, là. Moi qui suis superstitieux, comment je vais faire ce soir? Attends, je vais toucher du bois direct.
Ça va, c'est tout en bois.
Tu vas me porter la chkoumoune, t'es ouf. Non, non, c'est très surfait, les concerts sont pourris. Ils sont très chiants, c'est très religieux.
Ça, c'est parce que c'est complet pour la fin de la tournée.
Voilà. Et je demande aux gens de surtout pas applaudir entre les chansons. Et pas un bruit, je demande aux gens pas un bruit.
Silence.
Et un silence total. Et puis après, un applaudissement de 4 minutes à la fin du concert unique.
Alors moi qui n'ai pas vu le spectacle, on m'a parlé de la danse de l'ourson. Vous m'expliquez, on est en radio, c'est compliqué. Vous m'expliquez, qu'est-ce que c'est que cette danse de l'ourson?
Bah, c'est ma danse un peu, c'est un collègue à toi, un journaliste de je sais pas où, qui avait trouvé ça, bah c'est un peu ma façon de danser qui est, c'est vrai, un peu ridicule, disons-le, et donc c'est devenu la danse de, mais ça évolue un petit peu, c'est vrai, je me surveille pas trop dans ma façon de danser, donc ça tombe un peu comme ça tombe, quoi.
Vous avez de la chance, on est en radio.
C'est très glamour.
Vous êtes tranquille avec nous. On fera rien contre ça. Alors on va être obligé de se séparer, malheureusement. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Vous engagez notamment lutte contre le cancer. Vous avez envie de vous investir, de profiter de cette notoriété pour aider ceux qui en ont besoin. Simplement, pour terminer vos projets, c'est un nouvel album peut-être qui se prépare. Le dernier est sorti il y a un an, on l'a dit. La tournée se termine. Il y a déjà des idées.
Des idées, oui, mais c'est encore lointain. C'est-à-dire que moi, j'essaie de le travailler tout le temps. Enfin, d'avoir des... Sont quand t'écris des chansons, t'as toujours un bout de texte. Enfin, tu t'arrêtes jamais un an, quoi. C'est, ça existe pas. Donc, t'as toujours des idées, des trucs sur lesquels tu travailles. Voilà. Et puis, j'espère que ça donnera un album et j'espère qu'il sera au niveau. Mais maintenant, je vais commencer à m'inquiéter.
Il y a un DVD live qui est sorti donc au Grand Rex depuis quelques temps maintenant. Il y a un autre DVD live de prévu. Quelque chose a été fait sur cette tournée?
Non, pas sur cette tournée, parce que l'autre est sorti récemment. Et puis en plus, voilà, ça fait un bon souvenir, un DVD live, mais c'est vrai que moi, ça me démange pas. Je crois aussi au concert, sur le moment, avec les gens qui étaient là. Alors pourquoi pas en faire un jour encore, mais je suis pas contre, tu vois, militant contre, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'essaye à tout prix d'obtenir, un DVD. Donc là, je tenais pas à en faire, par exemple.
Inciter le public à venir directement dans les salles, et puis bah c'est
oui,
une ambiance incomparable.
Ça se passe, et puis en DVD, c'est toujours un peu décevant. Voilà, peut-être quelques années plus tard, c'est avec le Grand Rex, j'avais du mal à l'écouter. Je l'ai revu dernièrement pour choisir des chansons pour la fin de la tournée. Là. Et bon, c'est plus rigolo parce que ça te fait des souvenirs, mais sinon. Sinon c'est chiant les DVD de moi, quoi. Ils sont chiants, mon DVD.
Et donc, puisque le prochain album n'est pas tout à fait prêt à sortir, ça veut dire que le cinéma, télévision, là il y a d'autres petites choses qui se profilent éventuellement?
Bah, je vais être animateur sur France Bleu pendant toute l'année.
C'est
on
vous
m'a proposé un poste, quelqu'un qui vont renvoyer, m'a-t-on dit. Et voilà, ils vont jeter parce qu'il avait piqué dans la caisse. Oui.
Ça arrive souvent.
Voilà, je sais. Je sais.
Et il vient au concert en plus gratuitement derrière. En tous les cas, beaucoup de bonnes choses sans doute à découvrir avec vous, Benabar. On va se séparer. Une dernière petite chose, on a quelques exemplaires de votre dernier album, Reprise et négociations. Vous le signez pour ceux qui nous sont fidèles depuis 18h.
Bah avec grand plaisir, grand plaisir.
Et on va offrir donc tout cela. Et puis on va se séparer avec un extrait de ce dernier album. Je vous laisse, c'est la tradition, choisir le morceau qu'on écoute ensemble. Peut-être votre coup de cœur de cet album.
Alors, le coup de cœur, j'irai pas jusque là. J'ai pas vraiment de coup de cœur sur mes chansons, heureusement d'ailleurs pour moi. Je sais pas, bah tiens, Les Épices, ouais, t'en parlais tout à l'heure.
Bah voilà, comme ça.
Pour illustrer.
Avant mon départ de France Bleu, c'est un plaisir.
Il faut que tu fasses un petit pot de départ quand même pour la passation de pouvoir, comme tu m'expliques. Tout ça.
Plus
ils sont rangés les micros, les trucs comme ça.
Je laisse quelques photos sur le bureau également, celles qu'on voit un petit peu partout. Mille fois merci en tout cas, Benabar, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Pour tous ceux qui souhaitent repartir avec cet album fraîchement dédicacé, 05 55 52 37 38, moi je vous dis à bientôt et puis bonne fin de tournée avec un très joli succès pour les années qui viennent.
C'est gentil, à bientôt.
Au revoir.
Un bébé encadré sur une étagère, un souvenir de vacances, un anniversaire.